Orange, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, pour diminuer l'utilisation du plastique. On le sait, c'est important pour la planète, mais ça n'est pas toujours simple à réaliser. Une solution existe, Elisabeth, et ça s'appelle Oali.
Oali, application 100% bretonne, qui a d'abord été créée pour nous aider à jeter les déchets au bon endroit. Comment ? Eh bien, grâce à la géolocalisation de la liste des poubelles les plus proches. Désormais, Oali nous aide à remplir notre gourde d'eau. Parce qu'on sait que c'est mieux d'avoir une gourde remplie d'eau plutôt que des bouteilles en plastique que l'on renouvelle constamment, qui polluent évidemment la planète, mais on ne sait pas toujours où la remplir. Oali a pensé à cela et depuis cet été, vous trouvez sur l'appli les endroits pour remplir gratuitement votre gourde. Et résultat, depuis cet été, on trouve déjà plus de 60 000 points de remplissage de gourdes partout en France. Bonjour Alexandre Solacolu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Oali. C'est parti, c'était au début de l'été, en pleine canicule. Vous n'avez pas pu remplir votre gourde ?
Bah effectivement, j'étais à Paris, j'avais ma gourde et vers 10h30 en pleine canicule, j'avais déjà fini à vider ma gourde. Et je me suis dit que c'était... Enfin, autour de moi, on me proposait d'acheter des bouteilles en plastique. Mmh. Et je me disais que c'était quand même compliqué de résister à la tentation et que notre boulot chez Oali, c'était de faciliter en fait à chaque individu un changement de comportement autour de la question des déchets, donc moins en produire et mieux les gérer, et qu'une partie de notre boulot c'était quand même de faciliter cet accès à l'usage de la gourde. Et surtout, on s'est rendu compte rapidement juste derrière qu'il y avait près de 2000 points de remplissage de gourdes dans Paris, donc il y en avait eu obligatoirement autour de moi, et que c'était en fait fondu dans le paysage, fondu dans le design du mobilier urbain. Et c'est ça que nous, on a voulu révéler. C'est un peu notre travail aussi dans Oali avec cette cartographie, c'est de révéler un peu les ressources de l'économie circulaire d'un territoire. Et avec notion d'économie circulaire, c'est aussi de supprimer les boucles, quoi.
C'est-à-dire pas c'est ça, vous, il y a une notion qui n'est pas du tout culpabilisante. C'est, oui, vous avez peut-être envie de faire attention, mais nous, on va vous aider à trouver ces points où vous pouvez remplir votre gourde. Et ça, c'est important. Alors, comment ça marche si on télécharge Oali sur notre téléphone?
Bah, vous téléchargez Oali, donc c'est une application gratuite. Elle va ouvrir sur une cartographie de là où vous vous trouvez. Il y a beaucoup, beaucoup de données qui sont directement sur cette cartographie. Et vous avez un petit filtre, c'est un petit triangle qui sert de filtre. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez voir apparaître sur la cartographie. Donc il y a des magasins de rack, des points de remplissage de gourdes. Alors, quand on est au bord de la mer, il y a aussi
des
poubelles pour les déchets, ce qu'on appelle des bacs à marée pour nettoyer les plages. Et on a beaucoup, beaucoup de données. Et par exemple, on peut aussi vous dire où déposer votre brosse à dents pour la sortir de votre poubelle et la mettre dans des endroits qui recyclent les brosses à dents. Il y a un certain nombre d'opérations. Voilà, ouais. Ce que je vous disais, c'est que l'enjeu, c'est de révéler toutes les ressources d'un territoire.
Guillaume ?
Donc, j'ai vu qu'au départ, l'application, en fait, n'est pas du tout pour trouver de l'eau. Au départ, c'est pour trouver des poubelles.
Oui, effectivement.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous en êtes venu, effectivement, à repositionner. Est-ce que vous maintenez quand même la première activité ou les premières activités? Est-ce qu'il n'y avait pas que ça? Et comment vous en êtes venu à vous orienter vers ce...
Vous ajoutez des briques. Hein.
En fait, notre objectif, c'est de départ, c'est de protéger les océans de la pollution plastique et de la pollution des déchets liés à la consommation des ménages. Notre objectif est d'accompagner les individus dans leur rapport aux déchets pour limiter leur impact sur l'environnement. Et en fait, et j'allais dire un peu plus profondément, intellectuellement, avec certains élus, dont un qui est un élu de la région montagne qui s'appelle Thierry Burlot, il me dit si on veut lutter efficacement contre le plastique, il faut redonner confiance dans l'eau du robinet aux citoyens. Et c'est un peu ça qui a imprégné notre idée, quoi.
Alors, je rebondis parce que vous parlez de robinet. Quand on a annoncé le programme sur Twitter, il y a un des auditeurs qui m'a dit « Mais attendez, c'est tout simple, il y a le robinet. Pourquoi est-ce qu'on fait une appli ?»
Eh bien, en fait, oui, il y a des robinets partout. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont cachés. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faciliter, de simplifier, de lever toutes les frictions qui nous empêchent d'avoir le bon comportement.
Pour lever ces frictions, vous, la prochaine étape, c'est d'ajouter dans les bars et dans les restaurants, ouais, gourde friendly avec votre application, parce qu'on a le droit, on ne le sait pas forcément, vous me le disiez hors antenne, on a le droit de rentrer dans un bar et de demander à remplir sa gourde.
Alors, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. On n'a pas vraiment le droit, on n'est pas obligé de nous donner un verre d'eau automatiquement. C'est pas réglementairement, c'est pas une obligation, sauf en cas de crise majeure, quoi. Mais Surtout, moi je le dis comme je l'ai vécu, mais moi j'irais jamais tout seul comme ça avec ma gourde. Bonjour, est-ce que vous pourriez remplir ma gourde? J'aurais peur d'être mal accueilli, j'aurais peur d'être d'avoir un refus, et même si l'expérience elle est négative, je le vivrais mal.
Mais il y a des points publics où on peut le faire, et c'est ça qui est important de signaler.
Voilà. Et justement, ce qui était aussi hyper intéressant dans ce qu'on est en train de faire là avec les bars, parce qu'on vient de commencer le mouvement.
Donc il y aura un petit label.
Oui, il y aura un petit label, mais surtout il y a beaucoup d'établissements qui rentrent dans le jeu de comprendre que c'est la lutte contre le plastique, la lutte pour protéger l'environnement. Et ça, ça prend vraiment bien. Et nous, on voit bien que cette question de déchets, je rebondis sur la question de nous, on n'a pas bougé d'objectif, c'est finalement de créer un contrat social avec une multitude d'acteurs, d'un territoire sur comment on réduit l'impact de nos modes de consommation au travers de la question des déchets. Donc l'évitement, c'est pour ça qu'on pousse l'usage de la gourde, ou une meilleure gestion et trouver des points de collecte plus pertinents encore.
Ça s'appelle oali.org et c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Nous en parler sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous. Juste après le journal, on va vous donner la parole. Venez nous dire si vous avez, changé justement vos modes de déplacement. La nouvelle mobilité est au cœur de la France qui bouge. À tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France Bouge. On va s'intéresser ensemble aujourd'hui aux nouvelles mobilités et on vous attend bien sûr sur le sujet. Avez-vous laissé votre voiture au garage pour prendre les transports en commun? Avez-vous adopté le vélo ou changé votre mode de déplacement? 3921 et Twitter, bien sûr, vous pouvez nous appeler dès maintenant, Céline.
Oui, 3921, vous l'avez dit, Twitter c'est @ ou hashtag Europe 1.
Bonjour Adi Maninou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le PDG de Phoenix Mobility. Et alors votre conviction, c'est qu'il va falloir utiliser de nouvelles voitures dans les années qui viennent. On voit, c'est vrai, les constructeurs s'interroger sur quel est le bon modèle finalement aujourd'hui. Est-ce que c'est de l'hybride? Est-ce que c'est du thermique? Est-ce que c'est de l'électrique? Vous vous dites, il faut faire de la conversion, c'est ça l'avenir?
Alors, l'avenir, je pense, parce qu'aujourd'hui on part d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de véhicules thermiques qui circulent sur Terre. Et on a une urgence d'opérer une transition du secteur du transport vers des moyens de mobilité plus propres. Le problème, c'est que demain, on ne peut pas se permettre de prendre ce milliard de véhicules, de les mettre à la casse et de reproduire un nouveau milliard de véhicules électriques.
Ouais, c'est pas vertueux.
C'est pas du tout vertueux.
C'est pas bon pour la planète.
Exactement. Et notre solution, c'est de valoriser les véhicules existants en les convertissant en véhicules 100% électriques, zéro émission, afin d'avoir un bilan carbone beaucoup plus vertueux et puis surtout de casser le coût d'accès aux véhicules électriques qui est aujourd'hui encore le plus grand frein au déploiement du véhicule électrique en France.
Oui, vous dites finalement acheter un véhicule électrique, ça revient malgré les aides encore trop chères, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc le plus simple, c'est effectivement de changer ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture.
Exactement, pour nous, ça nous paraît évident et ça coule de source parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui correspondent aux critères nécessaire pour pouvoir être converti à l'électrique. Une grande partie du parc automobile français peut être converti à l'électrique. Alors sans forcément vouloir parler de tout le parc, une bonne partie des véhicules les plus polluants peuvent être convertis afin de pouvoir tout simplement s'additionner aux offres de véhicules électriques qu'on a aujourd'hui et accélérer le déploiement du véhicule électrique.
Comment elle vous est venue cette idée de conversion justement?
Alors c'est assez marrant, mais l'idée nous est venue sur les bancs de l'école. Donc on était en train de finir notre école d'ingénieur et on était dans une phase où on se posait des questions sur l'avenir professionnel qu'on voulait avoir. Dans notre école, Grenoble INP, on était incité à regarder de près tout ce qui était transition énergétique, lutte contre le changement climatique, etc. etc. Et ce projet entrepreneurial est tombé à pic parce qu'il alliait à la fois nos convictions et nos compétences professionnelles. Et puis on a regardé les véhicules, on a regardé les véhicules électriques, on s'est dit mais attends, on peut convertir un véhicule, techniquement on peut le faire, théoriquement on peut le faire.
Techniquement c'est pas compliqué?
Techniquement, alors c'est pas compliqué, c'est quand même assez compliqué, il y a beaucoup de R&D à effectuer.
Recherche et développement.
Alors oui, voilà, nous on aime bien expliquer simplement que pour convertir un véhicule, en fait c'est comme faire une greffe sur un corps humain, il faut identifier les organes à retirer, ausculter le patient avant et remplacer par des organes totalement neufs et en bonne santé, et puis surtout qui sont compatibles avec le niveau sanguin de la personne. Et puis pour un véhicule, c'est exactement la même chose. On prend le moteur thermique, on le retire et on remplace ça par un kit de conversion composé d'un moteur électrique, d'un pack de batterie. Le véhicule est ensuite programmé, il y a des tests qui sont effectués, des tests de sécurité, et le véhicule peut rouler.
Et vous dites ça, cette opération-là, nous on sait la faire. Et c'est aussi une solution qui est 3 à 4 fois moins chère que l'achat finalement d'un, d'une voiture électrique neuve.
Exactement, exactement. Aujourd'hui, le problème, le frein majeur au déploiement du véhicule électrique, il y a eu une étude qui est sortie récemment, une étude de référence par le cabinet Wavestone qui s'appelle, qui a été donnée à l'association Eden, qui montre qu'il y a trois freins en France au déploiement du véhicule électrique. Le coût d'accès au véhicule électrique, l'infrastructure de bornes de recharge et puis le manque d'offres de véhicules électriques aujourd'hui en France. Aujourd'hui, avec notre solution, on multiplie les offres de véhicules électriques et puis on casse, comme vous le dites, le coût d'accès par 3 ou par 4 afin de permettre en fait à toutes les bourses de pouvoir accéder à des véhicules électriques à moindre coût.
Alors justement, Elisabeth, il y en a combien des véhicules électriques en France aujourd'hui ?
Alors d'abord, le baromètre de l'Argus sur l'avenir des énergies automobiles a fait apparaître là, récemment, il y a quelques jours, des intentions d'achat de 10% des Français qui sont en faveur de la voiture électrique et qui pourraient
passer
à l'acte, exactement. En 2016, le marché de la voiture électrique a progressé de 26% pour atteindre un total de 27 307 immatriculations, dont 21 751 véhicules particuliers électriques. Donc une hausse de 26% qui augmente chaque année parce qu'il y a des aides pour pouvoir acquérir ces voitures électriques.
Vous dites aujourd'hui, on a 4000 demandes de devis.
Alors en fait, depuis le mois d'avril, alors pour refaire la chronologie, notre projet a un peu plus d'un an.
Oui.
Notre startup existe depuis un peu plus d'un an et depuis le mois d'avril, les choses se sont accélérées. On a recruté nos premiers ingénieurs, on est passé un peu du projet étudiant à la vraie startup industrielle qui a des ambitions assez importantes.
À Grenoble et à Paris.
À Grenoble et à Paris et bientôt dans les Hauts-de-France également. Depuis le mois d'avril, on a reçu des dizaines, des milliers de demandes de devis. Aujourd'hui, on doit être à plus de 5000 demandes de devis, ce qui prouve en fait l'intérêt des personnes qui entendent parler de notre solution pour justement cette solution à la fois moins coûteuse et plus écologique.
Que dit notre coach, Guillaume
Carreau ? Déjà, moi, bravo, parce que c'est vrai qu'on a des étudiants, c'est un petit groupe d'étudiants qui sont lancés, qui ont créé leur entreprise et qui plus est une entreprise industrielle, sachant que l'industrie en France va mal. Donc bravo à tous les niveaux et inciter tous ces jeunes qui ont des idées à y aller, à foncer, parce que c'est le monde de demain. Concernant effectivement ce secteur, on est en pleine transformation de notre société. On a vu avant avec les bouteilles d'eau, avec la façon dont on va manger, dont on va émettre du CO2, etc.
Tout est lié. On cherche quelque chose, une société plus vertueuse.
Et ce qui m'intéresse dans votre projet, c'est que finalement le coût est relativement modique. J'ai vu une somme effectivement 10 à 15 000 euros, alors que moi j'avais quand même en tête des sommes de transformation plutôt de l'ordre de 40 à 50 000 euros. Donc encore donc doublement bravo. Et comment est-ce que vous tiendrez votre objectif des 100 000 véhicules transformés d'ici 2024 ?
Alors, bonne question.
On espère les tenir, bien entendu. Donc les chiffres que vous avancez sont effectivement véridiques, puisque aujourd'hui on arrive à convertir des véhicules pour un coût de 10 000 à 15 000 euros. Si demain on continue à augmenter nos volumes, à industrialiser notre process, on peut baisser le coût en dessous de la barre des 10 000 euros. Si on y rajoute des aides de l'État, on peut facilement atteindre un prix de 5 000 euros qui est pour nous un prix très très compétitif et face aux offres de véhicules qu'on a aujourd'hui dans le marché.
Dites-moi, vous êtes accueillis comment par les constructeurs automobiles ?
Alors, étonnamment, nous, en tout cas, toutes les interactions qu'on a pu avoir sont assez positives, tout simplement parce que les constructeurs n'ont pas pour philosophie de convertir des véhicules existants, c'est des business models totalement différents. Nous, l'approche qu'on a eue, c'est une approche positive. On a eu beaucoup, en fait, d'aide de la part des interlocuteurs qu'on a eu chez les constructeurs. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas mis en danger par ceci. Néanmoins, il y a un sujet qui est très très important, qui est le sujet de la réglementation et de l'homologation des véhicules convertis.
Oui, parce que pour l'instant, vous n'avez pas toutes les autorisations.
Exactement. En fait, depuis toujours, le frein à la conversion de véhicules a été l'homologation. Pour homologuer un véhicule converti, il fallait obtenir l'autorisation du constructeur. Aujourd'hui, avec l'association R, qui regroupe tous les acteurs de l'écosystème de la conversion de véhicules, beaucoup de rencontres, des rencontres se multiplient avec les pouvoirs publics, avec les différents parties prenantes. Et puis, on est en train d'aboutir et d'arriver, début 2020, à une sorte de libéralisation de ce secteur, alors qu'il sera bien encadré, puisque bien entendu, on convertit des véhicules. Donc, il y a des personnes qui vont utiliser ces véhicules. Donc, il y a beaucoup de choses à avoir en tête et des normes de sécurité à respecter. Mais nous sommes plutôt contents, puisqu'aujourd'hui, les choses évoluent favorablement.
Elisabeth, grâce à cet engouement en direction de l'électrique, on s'aperçoit qu'il y a quand même des entreprises qui ont réussi à se relancer.
Oui, des entreprises, notamment des entreprises autour du vélo. Hein, vous avez l'usine de la manufacture française du cycle qui est située en Loire-Atlantique, à Mochecoul, qui produit 430 000 vélos par an, qui a été rachetée par Intersport pour poursuivre cette embellie autour du vélo électrique. Il faut savoir que c'était une vieille usine qui avait prévu de fermer ses portes. Et là, du coup, elle renaît et donc ça a recréé des emplois et un beau marché. Oui.
Effectivement, en fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que c'est super intéressant par rapport à l'emploi. Mmh. Aujourd'hui, en France, si on arrive à dynamiser le secteur de la conversion et la filière de la conversion, on peut créer beaucoup d'emplois.
C'est ça, c'est pas supprimer, c'est remplacer, transformer.
Exactement. Aujourd'hui, le métier de garagiste et les métiers de l'après-vente de manière générale sont un petit peu en danger. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arrivée de l'électrique, ce sont des véhicules qui vont être beaucoup plus fiables, beaucoup moins d'usure de maintenance, donc beaucoup moins de travail pour les garagistes. Avec une solution comme la nôtre, on proposera demain de nouveaux services aux garagistes, typiquement convertir des véhicules. Donc, ce sera une source de création d'emplois ou en tout cas de maintien d'emplois.
On sera dans la transformation, effectivement, de certains métiers et non pas leur élimination. On reste ensemble et on continue à s'intéresser aujourd'hui aux nouvelles mobilités.
Il est 13h20.
Europe 1.
Et on vous attend. On va laisser la voiture au garage pour prendre les transports. On embarque dans un véhicule hybride en mode zéro émission. À tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec un dossier du jour qui s'intéresse aux nouvelles mobilités. Et vous, comment vous déplacez-vous ? Prenez-vous votre vélo pour aller travailler par exemple ? Eh bien dites-le nous sur Twitter, @Europe1. Vous pouvez aussi nous en parler en nous appelant au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
On a tous déjà pris le bus, hein, forcément dans les grandes villes notamment pour se déplacer. Et si demain, ce bus, il était à zéro émission ? Bonjour Christine Chary.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable du programme Lemon et directrice des partenariats chez Transdev. Lemon, c'est le laboratoire où vous expérimentez tout un tas d'initiatives pour imaginer le bus de demain.
Alors oui, et plus largement en fait pour favoriser les transports en commun et même pour favoriser toutes les alternatives finalement à la voiture individuelle.
Quelle qu'elle soit, hein, concernant la mobilité justement, cette fameuse nouvelle mobilité dont on parle.
Tout à fait.
Chez Transdev, vous transportez plus de 11 millions de voyageurs, c'est ça ?
Oui, c'est un grand groupe de 82 000 collaborateurs qui transportent tous les jours 11 millions de voyageurs en France et puis également à l'étranger.
En France, vous êtes à Mulhouse par exemple, à Grenoble, tiens on en parlait,
oui,
au Havre,
à Reims.
Alors à Grenoble justement, dans quelques jours je crois, le 1er octobre, un constructeur vous a demandé de mettre au point un bus électrique hybride au gaz rechargeable. Ça fait beaucoup de mots pour moi dans le même véhicule. Expliquez-nous.
Oui, alors on est en plein dans la transition énergétique effectivement. Ce véhicule en fait, donc globalement toutes les collectivités ont tendance en ce moment à véritablement essayer de verdir leur parc. Donc elles font des achats de bus électriques, des achats de bus au gaz. Il y a plein de technologies différentes qui existent, qui sont sur le marché et qui répondent à des besoins spécifiques. Généralement, ça répond à des déplacements plutôt dans les zones urbaines. Il y a effectivement Safra, qui est un constructeur français puisqu'il est basé à Albi, qui a développé un prototype de bus hybride gaz et électrique. On connaissait le bus hybride diesel électrique qui est du coup plus propre qu'un bus diesel, mais encore un petit peu sale, on va dire. Là, on a une technologie totalement propre qui est un bus électrique et qui vient prolonger finalement son autonomie.
On est dans le mix énergétique finalement.
Effectivement, voilà. Et du coup, ça nous permet de pouvoir déployer des solutions de bus électrique sur des distances plus longues. En l'occurrence, du coup, pour aller desservir les zones périurbaines sans pour autant avoir à construire des infrastructures lourdes et coûteuses dans ces territoires.
Comment est-ce que vous avez réussi justement à imaginer ce mix ? C'est quelque chose qui vous a paru évident à un moment donné quand on regarde finalement et les distances et la nécessité de faire plus vert ?
Oui, alors c'est pas nous qui l'avons imaginé, hein, c'est le constructeur.
Avec eux, hein, avec voilà, eux bien sûr.
Et derrière, c'est la collectivité grenobloise qui a souhaité, du coup, qui s'est déjà beaucoup engagée dans le verdissement de son parc et qui a souhaité aussi expérimenter ce type de technologie pour répondre à des besoins du coup différents, en tout cas dans la zone périurbaine, puisque à Grenoble, on est sur un territoire du coup extrêmement étendu. Du coup, le grand sud grenoblois, on va jusque dans les montagnes finalement, donc dans des zones sur lesquelles du coup les réponses, les solutions technologiques qu'on utilise habituellement, on va dire, ne répondent pas bien.
Pour pouvoir notamment recharger les bus quand on est dans du tout électrique.
Mmh.
C'est une première mondiale qui va avoir lieu là, avec ce bus comme ça, 1er octobre.
Alors oui, il me semble bien. En tout cas, donc le 1er octobre aura lieu aux Rencontres nationales du transport public, qui est un grand événement dans notre profession. Ce salon aura lieu à Nantes, et donc on officialisera du coup le bon de commande pour l'achat de ce bus. Donc en présence de la collectivité grenobloise, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, avec Safra, le constructeur, et puis avec Transdev.
Ça fait 5 ans hein, que vous êtes, vous, engagé justement dans le renouvellement du parc.
Oui, alors là encore, c'est la collectivité hein, qui décide et qui entreprend.
Mais c'est vous qui êtes l'opérateur.
Et nous, on est l'opérateur. Donc nous, on vient apporter notre conseil. En tant que grand groupe, on exploite aujourd'hui plus de 1000 bus électriques à l'échelle de l'Europe. Donc ça fait de nous le leader européen. Donc ça nous fait beaucoup de retours d'expérience. Évidemment, on a une grande expérience aussi dans l'exploitation des bus au gaz. On a lancé tout récemment une expérimentation de bus à l'hydrogène, bus électrique à l'hydrogène, là encore, c'est très innovant. Ça a été fait sur le territoire, dans le Pas-de-Calais, sur le territoire de Lens, Artois, Gouëlle. Et en plus, c'est très symbolique parce que du coup, c'est un ancien bassin minier qui vient expérimenter du coup une technologie très innovante et très propre aussi.
Elisabeth, il faut dire que les transports en commun, c'est aussi beaucoup moins cher que de rouler finalement par ses propres moyens.
Bah oui, ça coûte, se déplacer en voiture, ça coûte 16 fois plus cher que de circuler en bus, en train, en métro ou encore en tramway. C'est une différence de prix qui s'accentue d'année après année. D'après l'INSEE, entre 2008 et 2018, le prix d'un ticket de transport public n'a augmenté, entre guillemets, hein, que de 8,5%. Mais c'est deux fois moins vite que ce qu'il faut pour débourser, hein, pour utiliser sa voiture, qui, là, ça a augmenté de plus de 20%.
Guillaume Quairaut, notre coach.
Merci de nous rappeler que la France est quand même le pays au monde le plus innovant dans le secteur des transports. Et je suis bien content de votre témoignage. Après, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, c'est vrai, d'émissions de CO2, de bus. On est près du bus à hydrogène, finalement, là, ce bus hybride, c'est ça ? En termes de technologie, c'est...
Pas tout à fait. Le bus hybride gaz électrique, c'est encore autre chose que l'hydrogène. Mais les deux, on expérimente les deux, évidemment. On vient expérimenter toutes les technologies qui existent. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire mûrir ces technologies, d'en faire le bilan carbone, d'en faire le bilan économique. Et de là, de permettre aux collectivités de faire les bons choix stratégiques dans le verdissement de leur parc.
C'est vrai qu'en Europe, on voit que le secteur, effectivement, des transports est quand même très électrifié, il y a beaucoup de trams, il n'y a qu'en France où il y a finalement peu de trams et on a tendance à revenir un peu en arrière. Et est-ce qu'on va tenir des objectifs de réduction de CO2 avec ces nouvelles formes de transport ?
Alors, en tout cas, du coup, la loi transition énergétique contraint effectivement les collectivités à aller plus en avant dans ce terrain-là. Après, l'enjeu du bilan carbone, de l'empreinte écologique des transports en commun, il se fait à travers le parc, la flotte de bus et d'autocars, mais aussi à travers le changement de comportement et arriver à, du coup, inciter les gens à utiliser les transports en commun. Et c'est en ça que,
bravo,
du coup, les innovations... Elles doivent se porter aussi sur tous les sujets connexes à la mobilité.
On continue ce débat dans un instant sur Europe 1. Europe 1.
La France Bouge s'intéresse cet après-midi aux nouvelles mobilités, voitures, bus ou vélos électriques. On se déplace de façon plus responsable. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez des questions pour nos invités? Écrivez-nous sur Twitter, @Europe1. Vous pouvez également nous appeler au 3921, Raphaël.
Le vélo, figurez-vous, se propage à vitesse grand V dans les villes. Beaucoup d'urbains ont choisi de troquer la voiture et même les transports en commun pour plus de liberté, moins de pollution aussi. Bonjour Christophe Baeza.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de 31. Et alors, vous fabriquez le premier vélo français qui se recharge à la décélération. Bon, c'est un vélo électrique.
Ça reste un vélo électrique. Un peu différent des autres, mais ça reste un vélo électrique.
Un peu différent, mais racontez-moi, comment vous est venue l'idée de changer finalement de mode de fonctionnement? Pourquoi à la décélération?
Alors, à la base, je suis parti faire un bike trip avec mes enfants et on voulait partir à l'aventure et donc ne pas avoir de point d'arrêt le soir. Sauf que on s'est rendu compte que quand vous avez un vélo électrique, quand vous allez d'un point A à un point B, il faut nécessairement que sur le point B, vous ayez une prise. Autrement, vous ne rechargez pas. Et donc, en rentrant de ce bike trip, on s'est dit, bah, tiens, il y a quelque chose peut-être à inventer. Et on a sorti ce vélo électrique qui recharge à la décélération. Et le gros avantage, c'est que ça vous permet de pouvoir faire de l'itinérance où vous pouvez aller d'un point A à un point B, puis un point C, sans avoir nécessairement à recharger.
Et ceux qui nous suivent sur Europe1.fr peuvent le découvrir. On a les images de ce vélo qui se recharge à la décélération. Vous êtes à Toulouse, vous travaillez depuis combien de temps sur ce projet? Comment est-ce que vous êtes passé du vélo électrique tout simple à finalement ce deuxième concept?
Alors, on existe depuis 2013 et dès le départ, en fait, comme je dis tout le temps, je ne voulais pas faire un vélo, mais un objet de mobilité. Dans objet, on entendait quelque chose qu'on puisse mettre dans son salon, qui soit suffisamment joli. Et dans mobilité, quelque chose qui change, un service différent. C'est comme ça qu'on est devenu le premier vélo électrique en libre-service de France. On a équipé la ville de Vannes avec, grâce à ma voisine Transdev.
Ouais. Le monde
est petit. Et donc, on voulait un peu changer les codes, bousculer un peu tout. Et l'autre phase de nos développements, c'est toujours l'innovation. Donc là, on parle du vélo qui se recharge à la décélération, mais on a été aussi le premier vélo à changement de vitesse automatique, etc. etc. On recherche toujours quelque chose de différent de ce qui se pratique.
Ouais, c'est allé assez vite, hein, d'ailleurs, parce que 2013, c'est le démarrage. 2014, c'est le premier vélo qui sort.
C'est ça. On est allé assez vite. Alors, on était déjà en discussion avec Transdev au moment de la création de la société.
Vous avez déposé un brevet pour ce nouveau vélo, ce nouvel objet de mobilité, pardon.
Alors aujourd'hui, on se rend compte que le marché des mobilités et du vélo va tellement vite, ouais, que dépenser de l'argent dans des brevets, ça ne sert à rien. Le temps qu'il y ait quelqu'un qui nous copie, on sera déjà passé à autre chose.
Le frein, c'est quoi aujourd'hui? C'est le prix. Si je veux m'acheter ce vélo, ça reste quand même un gros budget. On est au-delà des 2 600 €. Donc, c'est la raison pour laquelle vous essayez de le proposer davantage aux collectivités, aux entreprises en location?
Alors non, c'est pas spécialement le prix, parce qu'en plus, aujourd'hui, on propose de la location longue durée. Donc, vous pouvez acquérir le vélo pour 2,50 € par jour.
Ouais, comme une voiture, finalement.
Exactement comme une voiture. Par contre, comme je vous le disais, on veut... notre volonté, c'est aussi de vouloir changer les mobilités. Donc on l'a exprimé à travers les collectivités. Aujourd'hui, on se positionne très fortement sur le parc d'entreprises et on propose des vélos en libre-service avec des bornes et aussi des contrats de maintenance. Donc on veut convertir les entreprises à l'utilisation du vélo.
Et c'est un vélo 100% français?
Et c'est un vélo qui est conçu et assemblé en France, oui, tout à fait.
Elisabeth, le vélo, on est de plus en plus nombreux à s'y mettre.
Mais oui, parce que près de 2 Français sur 5 aujourd'hui utilisent le vélo dans leur quotidien. C'est en augmentation chaque année. On peut le dire, hein, le vélo est revenu dans la vie des Français, au-delà des grandes villes. C'est maintenant un petit peu partout.
Guillaume, notre coach.
Donc moi, j'ai vu, vous avez 5-6 ans d'expérience. J'ai vu que vous aviez eu c'est intéressant pour nos auditeurs, un repositionnement un peu de votre stratégie, avec une nouvelle stratégie qui a été mise en place récemment, je crois.
Tout à fait, oui. C'est cette nouvelle stratégie qui s'exprime surtout sur le parc d'entreprise. On considère qu'aujourd'hui, vous prenez une entreprise, par exemple, toute entreprise qui a plus de 100 salariés doit proposer un plan de déplacement entreprise. Donc, doit proposer à ses salariés d'autres formes de mobilité. Le vélo est certainement l'objet de mobilité le plus populaire, d'où le fait de notre succès. Et j'insiste, mais le fait de proposer en tant que marque aussi les contrats de maintenance nous permet aux entreprises d'arriver avec des solutions totalement clés en main.
On reste ensemble et on continue à parler de ces nouvelles mobilités aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921 Twitter, c'est la France qui bouge, vous avez la parole.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h et cet après-midi, on parle des nouvelles mobilités. Raphaël Duchemin avec vos invités.
Nous sommes avec Wadi Maninou de Phoenix Mobility. Nous sommes avec Christine Chary qui dirige le laboratoire du transport en commun et des mobilités Lemon au sein de Transdev. Transdev qui est une société française. Farty One aussi, Christophe Baeza est avec nous, fabricant du premier vélo français qui se recharge à la décélération et puis d'autres objets de mobilité. Notre coach, c'est Guillaume Kérou, évidemment. À mes côtés, Elisabeth Assayagela. On devrait s'arrêter un petit peu quand même sur ce que vous faites au sein de Lemon, parce qu'il y a énormément de choses, hein, Christine Chary. Il y a notamment ces capteurs que vous mettez sur vos bus.
Oui, effectivement, on a mené une expérimentation l'hiver dernier en positionnant des capteurs de pour mesurer la qualité de l'air sur nos autobus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, notre flotte de véhicules sillonne tout le territoire, tout un territoire, et en plus à intervalles réguliers. Et la plupart des grandes villes sont évidemment équipées de dispositifs de mesure de la qualité de l'air. Et du coup, en les mettant sur nos véhicules, on peut arriver à compléter nos connaissances et les mesures qui sont faites. Donc, on l'a fait pendant 3 mois. On a eu plus de 4 millions de mesures. Et du coup, on est en train d'analyser toutes ces données et d'en faire le bilan. D'ores et déjà, on se rend compte qu'on a véritablement des données fiables et qui vont finalement permettre d'aller dans des territoires qui ne sont pas équipés de dispositifs fixes de capteurs de la qualité de l'air pour arriver à proposer finalement une solution plus frugale qui ne nécessite pas la construction d'une infrastructure de grande envergure pour arriver à, du coup... mesurer la qualité de l'air sur ces territoires. Donc c'est vraiment une vraie solution, un protocole avec une vraie solution pour les villes moyennes.
Christophe Baeza, combien de vélos vous avez vendus à ce jour, le nouveau vélo, celui qui se recharge à décélération?
Alors le nouveau, pas beaucoup, parce que ça fait que depuis quelques mois qu'on le commercialise. On a mis beaucoup de temps pour le développer, mais aujourd'hui on doit être à un peu moins d'un millier, et surtout sur le parc d'entreprise.
J'ai une question que nous pose Patrick, qui est à Paris et qui nous écoute et qui a appelé au 3921. Il dit il avait été évoqué un brevet français de stockage d'hydrogène permettant de les réutiliser pour des voitures électriques et permettant une autonomie de 1500 km. Pourquoi cela ne s'est pas fait? Vous avez une réponse, Wadi?
Alors en fait, c'est une réponse, c'est pas forcément une réponse directe, mais de manière générale, aujourd'hui, depuis quelques années, on a plusieurs propositions sources d'énergie pour les nouvelles mobilités. Il y a eu l'hydrogène, le gaz de ville, l'électrique. Et en fait, chacune, à mon sens, répond à un certain besoin. C'est le besoin et l'usage qui justifient de l'utilisation d'une telle source d'énergie ou une autre. Si aujourd'hui, l'hydrogène ne s'est pas forcément développé comme on le souhaitait, c'est parce qu'il y a peut-être eu moins d'engouement de la population, peut-être moins d'engouement politique ou d'incitation de l'État. Tandis qu'aujourd'hui, on commence à voir un petit début de déploiement du véhicule électrique qui, on l'espère, va continuer dans les années à venir.
Alors, puisqu'on est en train de parler de véhicules électriques, votre première voiture convertie, elle roule, hein, c'est une Citadine, je crois, qui date de 2015, c'est ça?
Exactement. Alors, en fait, effectivement, actuellement, nous avons fini notre phase de prototypage. On a notre première Renault Clio de 2015. Diesel, il y a encore quelques mois, qui est aujourd'hui 100% électrique et qui va préparer le terrain à une commercialisation dans les mois à venir. Ce qui est assez marrant et anecdotique, c'est que il y a un an, quand on a commencé notre activité chez Phoenix Mobility, nous sommes exportés directement à l'étranger. Et c'est là-bas qu'on a testé la faisabilité technique de notre solution. On est allé au Kenya et on a eu une opportunité avec un parc de safari sur place. Et grâce à cette opportunité, on a converti 7 4x4, donc 7 Land Rover et Toyota Land Cruiser à l'électrique, ce qui a permis à ce parc de safari d'avoir des véhicules zéro émission, des véhicules qui ne font plus de bruit, donc qui peuvent s'approcher des animaux, et puis surtout, il y avait un intérêt économique pour le parc de safari.
Alors justement, on va revenir en France et on va regarder ce qui se fait chez nous dans les différentes collectivités. Elisabeth, il y a des régions qui effectivement sont en train d'investir massivement dans la mobilité verte.
Tout à fait. Hein. Vous avez par exemple la région Centre-Val de Loire avec l'exemple de Hopmove. Hopmove, c'est une solution de mobilité pour les entreprises de la région Centre-Val-de-Voire. C'est un homme âgé de 30 ans qui a créé ce service de mobilité verte dédié aux entreprises de Centre-Val de Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Elle propose des vélos électriques à tous les employés. Les collaborateurs peuvent l'utiliser pour effectuer des trajets entre leur lieu de travail et leur domicile, mais aussi dans leur vie privée. Vous avez aussi, ça va vous plaire Raphaël, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée,
oui, c'est chez moi,
qui accentue sa mobilité verte à la faveur d'investissements dans son réseau de transport en commun Mistral, qui comptera 136 bus propres l'an prochain. Et dans le classement des régions qui investissent dans la mobilité verte, vous avez Rouen qui est classé pilier de la mobilité verte.
Ouais. Voilà, voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur cette mobilité, nouvelle mobilité. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ces nouvelles formes de déplacement. On compte sur vous pour nous donner de vos nouvelles ici dans La France qui bouge.
Merci, merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est 13h46. Europe 1. Restez avec nous, c'est la plus vieille limonaderie de France qui arrive. Elixia Limonaderie est née dans le Jura, 1856, et c'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Elixia Limonaderie. Bonjour Hugo Soublé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le gérant d'Elixia. C'est la sixième génération. C'est votre belle famille hein, qui a démarré l'aventure. On est en 1856 à Champagnole, dans le Jura. Et c'est un certain Faustin Gérardet qui démarre. On n'est pas au départ que sur la limonade.
Voilà, au départ, il y avait des, faut savoir, il y avait des limonadiers en fait dans toute la France, dans toutes les petites, villes, et ils faisaient le commerce de limonade, la fabrication de limonade. Ils faisaient aussi l'embouteillage de vin, de bière, et ils vendaient aussi beaucoup les combustibles, hein, parce qu'ils allaient chez les particuliers faire les livraisons.
Et à un moment donné, en fait, quelqu'un invente la machine à faire l'eau avec des bulles, l'eau gazeuse.
Et voilà, exactement. Et là, après cette invention, et bien, c'est là que se sont développées toutes les petites unités en fait, de production de limonade.
Donc on est sur des produits assez classiques, si j'ose dire, au départ, nature,
voilà,
au sucre, avec un petit peu de citron.
Voilà, la limonade, il y a toujours une base de citron. Hein, c'est toujours un extrait de citron avec un peu de sucre et un acidifiant. Et voilà, toute la limonade, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez français, hein, la limonade.
C'est français, la limonade, pourquoi ? Qu'est-ce que ça a de particulier, la limonade ?
Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un produit français. C'est ce qui nous permet, nous aussi, d'exporter partout dans le monde, parce qu'en fait, les étrangers adorent ce goût de limonade, cette fraîcheur et ce petit goût de citron, justement, qui fait la particularité de nos limonades françaises. Voilà.
Alors, cette limonade, je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle est familiale parce qu'il y avait Faustin au départ, il y a eu André, il y a eu Paul ensuite, puis Alain, votre beau-père. Et à un moment donné, ça s'arrête. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh oui, ça s'est arrêté parce que...
Dans les années 80 ?
Voilà, comme partout en France, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu les produits de mass market, hein, je ne nommerai pas les marques.
les sodas qui sont venus concurrencer
la limonade.
Voilà,
qui ont envahi le marché avec l'appui des grandes surfaces. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, toutes les petites unités, les petits artisans, je suis artisan, toutes les fabrications artisanales ont disparu en 15 ans. Voilà. Donc on est les survivants de cette époque. Voilà.
Vous avez voulu donner un coup de jeune, vous avez repris l'entreprise en 2002. Qu'est-ce que vous aviez en tête ? Rendre le produit un peu plus moderne, un peu moins désuet justement ?
Voilà, c'est ce qui s'est passé en fait, c'est que le marché de la limonade, le produit, comme vous l'avez dit, est devenu complètement désuet parce que en fait, il y a eu une industrialisation de la limonade. On est parti sur une perte de qualité en fait, tout simplement, hein, avec les volumes. Et puis tout le monde, tous les consommateurs se sont détournés de ce produit-là. Voilà. Et c'est vrai que dans les années 90, vous demandiez une limonade dans un bar, bon, c'était pas top quoi. Alors, moi, je me suis dit, moi, j'étais un fanat de limonade, hein, puisque ouais. J'allais, quand j'étais petit, acheter ma limonade chez mon futur beau-père, en fait. Hein, et j'ai trouvé ça très dommage que mon beau-père arrête la fabrication. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Alors, évidemment, on a relooké, on a refait le design des bouteilles.
Elles sont là, les bouteilles, avec
et on a innové, on est parti de la recette classique. Hein, Et puis, on a innové en faisant des limonades aux fruits, on a innové en faisant...
Du bio aussi.
Oui, il y a déjà plus de 12 ans que nous fabriquons du bio. Hein. Ce n'est pas une opportunité, tout le monde parle de bio en ce moment, mais nous, il y a 12 ans qu'on fabrique du bio. Et nous, on est parti sur le parti pris aussi de faire des limonades qualitatives, peu sucrées, et qu'avec des extraits naturels de fruits et de plantes et des colorations végétales.
Guillaume.
Encore bravo de faire revivre l'artisanat en France, un artisanat en plus qui rayonne à l'international. Donc moi, ça me touche en particulier, c'est 40% à l'export, hein,
oui,
vous l'avez souligné.
Oui, tout à fait.
Les prochaines innovations, c'est quoi vos prochaines innovations dans
Alors,
ce secteur?
On va, j'ai d'autres projets, une autre gamme de boissons que j'en parlerai pas plus. Mais,
on
va essayer de développer encore la gamme bio. Voilà. Parce que la gamme bio, c'est vrai que nous, on est parti sur on travaille qu'avec des extraits des hydrolats de fleurs, des extraits de gingembre, des extraits de sureau. Elixia, c'est vraiment une limonaderie qui propose des produits vraiment ultra qualitatifs. Hein. Et c'est ce qui nous permet d'être sur des marchés export, où on est sur des marchés, ce qu'on appelle les fine food, et ce qui nous permet d'atteindre les marchés...
Donc vous êtes dans le haut de gamme.
Ah oui, oui, très haut de gamme. Parce que des gourmets, il y en a en France, mais il y en a beaucoup ailleurs aussi. Hein.
Et vous avez un produit phare. Alors moi, je ne le connaissais pas. C'est Elixia Or, c'est ça, avec des.
Oui,
des petites paillettes d'or.
Oui, voilà. Ça, c'est un produit un petit peu gadget, mais un peu bling bling. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un importateur à Dubaï.
Il faut assumer.
Oui. Et notre importateur m'a dit, Hugo, il faut faire. C'est bien tes limonades, c'est super, mais il faut nous faire une limonade un petit peu ultra premium, ce qu'on appelle sur le marché ultra premium. Et moi, je me suis dit, tiens, j'avais vu des boissons qui se faisaient avec des paillettes d'or.
Champagne.
Alimentaires, voilà. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais lui proposer ça. Voilà. Et puis, c'est ce qui a fait, voilà, en 2010.
Le succès.
Et c'est ce qui a fait connaître Elixia, voilà, partout.
Elixia Or.
Voilà, et Elixia Or, voilà, ça a été le produit phare.
Un des produits phares d'Elixia Limonaderie, c'était l'entreprise qui va bien. Merci.
Merci.
D'être venu nous la présenter aujourd'hui. Merci à Guillaume qui était notre coach, Elisabeth Céline.
À demain. À demain, c'était Raphaël Duchemin. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.